Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vous ai exposé l'enthousiasme de la charité, et vous voyez bien que le monde moderne est à l'opposé de cet enthousiasme. Que s'est-il passé? Le démon est très habile. Il a commencé par susciter des religieux qui ont voulu magnifier l'amour de Dieu, la charité. Et cela, évidemment, ne va pas dans le sens de la cédille, au contraire. Mais qui, pour cela, ont rejeté toute l'œuvre de saint Thomas d'Aquin qu'ils trouvaient trop intellectuel, même intellectualiste. Et ils ont pris le contre-pied de tout ce mouvement qui, au Moyen-Âge, a fait approfondir la doctrine pour en montrer les merveilles. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils faisaient du coup un amour aveugle et que si l'amour se coupait de sa source, à savoir la contemplation, l'amour finirait par se dessécher. Et c'est ce qui s'est produit. Il faut quand même ne pas oublier que la première vertu, c'est la foi, et que c'est la foi qui nourrit la charité. Aller directement à la charité sans passer par la foi, eh bien c'est ce que nous voyons aujourd'hui chez beaucoup de bons chrétiens. Et c'est comme cela qu'on en arrive à justifier l'œcuménisme, par exemple. Du moment qu'ils aiment Dieu, qu'est-ce que vous voulez, peu importe qu'ils croient ceci ou cela. Voyez, Mgr Lefebvre, qui vraiment fut un restaurateur, un sauveur dans l'Église, un phare de la foi, il contemplait et il transmettait sa contemplation. Il exposait Jésus-Christ et Jésus-Christ en croix. Parce que le chrétien est fait pour adhérer à ces mystères. Il est comme une éponge qui boit l'eau de la foi. À un enfant, il ne suffit pas de lui dire d'aimer le bon Dieu, il faut lui montrer les merveilles de Dieu, et donc le faire pénétrer dans la contemplation de Dieu, lui expliquer ce que le bon Dieu est, ce qu'il a fait pour nous. On le lui explique à sa manière d'enfant, n'empêche qu'on le lui explique. Et quand il entre dans le monde, le jeune homme a besoin de comprendre les choses. Ce religieux a été suivi par un de ses disciples, qui l'a fort mal compris, mais qui a augmenté le problème. Il s'agit de Guillaume d'Ockham, un nominaliste, qui lui a affirmé que Dieu était beaucoup trop élevé pour qu'on puisse le connaître, et que les œuvres de Dieu dans le monde étaient beaucoup trop dépendantes de Dieu pour qu'on puisse les connaître. Lui, Guillaume d'Ockham, qui était un religieux et qui croyait bien faire lui aussi, a affirmé qu'on ne pouvait connaître que ce qui tombe sous le sens, mais qu'il ne fallait pas chercher les raisons profondes des choses. Première conséquence, on se coupe de la sagesse de Dieu, on ne cherche plus à entrer dans la sagesse de Dieu. Or, c'est par sa sagesse que Dieu a fait le monde, par son amour aussi. Mais la sagesse vient en premier, parce que si vous avez un amour qui n'est pas sage, vous avez un amour fou, un amour tyrannique, un amour qui n'est plus un amour. Vous allez me dire, mais s'il y a la sagesse sans l'amour, ça ne marche pas non plus. Mais justement, il ne peut pas y avoir la sagesse sans l'amour. L'amour fait partie de la sagesse. Si on n'a plus cette sagesse de Dieu, on perd l'idéal, on soumet la volonté, puisque l'amour c'est la volonté de l'homme qui est devenu aveugle, à la volonté de Dieu qui est supposé aveugle, et on a une morale qui est réduite à l'obéissance. On ne comprend plus les 10 commandements de Dieu, on croit que les choses sont bonnes ou mauvaises parce que Dieu l'a dit dans les commandements, alors que c'est l'inverse. Dieu a dit les commandements parce que les choses sont bonnes ou mauvaises. Même s'il n'y avait pas eu les commandements, on pouvait se diriger vers Dieu. Les commandements ont été dictés par Dieu à Moïse comme une aide, comme 10 points de repère. Mais avant Moïse, comment faisaient Adam et Ève? Comment faisaient les descendants d'Adam et Ève? Comment faisaient Abraham, Isaac, Jacob, qui sont des modèles de vie chrétienne extraordinaires? Ils n'avaient pas les commandements, et pourtant, ils aimaient Dieu. Comment aimaient-ils Dieu? Parce qu'ils avaient écouté la révélation divine. On voit chez ces grands patriarches une contemplation du mystère de Dieu. Vous me direz, Abraham a immolé son fils Isaac, ce qui peut paraître contre nature. Eh bien non, parce que Dieu a révélé à Abraham le mystère de Jésus-Christ immolé sur la croix par Dieu le Père. Et les pères de l'Église nous affirment qu'Abraham savait que Isaac, après son immolation, ressusciterait. Avec Abraham, on n'est pas dans une obéissance aveugle, on est dans une obéissance intelligente. Finalement, Dieu empêche Abraham d'immoler son fils, parce que justement cela aurait été choquant. Mais faisons bien attention, avec nos mentalités modernes, nous interprétons les mystères de Dieu, selon notre manière de voir les choses et non pas selon la manière de Dieu. On le voit dans la crise actuelle. Celui qui ne cherche qu'à aimer Dieu sans avoir l'intelligence de la sagesse de Dieu devient moderniste, ou bien charismatique, plutôt charismatique. En résumé, la première conséquence de cette attitude, c'est qu'on considère que Dieu commande parce qu'il le veut, et non pas qu'il le veut parce que c'est sage. Du coup, on ne cherche plus à entrer dans la sagesse de Dieu, or comme c'est la sagesse de Dieu qui gouverne le monde, on devient incapable de trouver sa place dans le monde. Deuxième conséquence. Si Dieu commande parce qu'il le veut et non pas parce que c'est sage, eh bien les chefs, à leur tour, vont se mettre à commander parce qu'ils le veulent et non pas parce que c'est sage. Et on a l'autoritarisme. Voyez comme il est courant de parler de l'autorité lorsqu'on parle des chefs. On doit se soumettre à l'autorité quand on veut signifier qu'on doit obéir à un chef. Mais l'autorité est une sagesse. L'autorité est une vérité douée de sagesse. Elle n'est pas un commandement aveugle. Et il y a une distinction entre le chef et l'autorité. Normalement, les chefs devraient être dans l'autorité comme on est dans le vrai. Mais petit à petit, les chefs ont usurpé l'autorité et ils ne vont plus chercher l'autorité en Dieu. Ils affirment « Dieu m'a fait chef, obéissez-moi ». C'est tout le discours de Paul VI à Mgr Lefebvre, lorsque Mgr Lefebvre lui fait remarquer que l'Église est en train de tomber dans l'hérésie et même dans l'apostasie. Comment va-t-on se sauver alors si on est un bon chrétien? Eh bien, on va se sauver en regardant uniquement son petit monde à soi, sans faire de péché, mais sans chercher à entrer dans le plan de Dieu. Et c'est comme cela qu'on a une morale individuelle et non pas une morale, non plus une morale préoccupée du bien de la chrétienté, du bien de l'Église. Troisième conséquence, la liberté devient un absolu. Si ce n'est pas interdit, c'est permis. Je vous donne un exemple. Je faisais de la musique quand j'étais jeune. J'avais un professeur qui était admirable, plein de cœur. C'était une femme, elle était pleine de cœur, d'amour de la musique, mais surtout d'amour des jeunes. Un jour, elle me proposa de faire un stage de musique. Imaginez que je lui réponde, ou que je lui ai répondu, « Bah, écoutez, ce n'est pas obligatoire, il n'y en a pas besoin pour l'examen. Je préfère aller faire de la bicyclette avec mes amis. Aucune règle ne m'interdisait de faire cela. Et pourtant, si j'avais répondu ainsi, j'aurais manqué d'abord à l'amour de la musique et j'aurais manqué à l'amitié de mon professeur. Et mon professeur m'aurait dit à ce moment-là, écoute, si vraiment tu n'aimes pas la musique, si tu ne vis pas de l'enthousiasme de ce que je t'apporte, alors pourquoi restes-tu ici? Et puis inscris-toi à un club de bicyclette. Imaginez le jeune qui dit, bah, très bien, je vais faire de la bicyclette, j'abandonne la musique. À la bicyclette, le vélo, comme on dit, il y a une course. On l'invite à participer à la course parce que c'est stimulant. Imaginez qu'il réponde, ah non, c'est le week-end, je préfère être avec mes amis, fêter je sais pas quoi. On lui dirait, mais pourquoi t'es-tu inscrit au club de vélo si tu veux être avec tes amis, ou tes camarades, ou tes connaissances, que sais-je? Bien, pars d'ici, tu n'as rien à faire chez nous. Maintenant, imaginez un jeune à qui Dieu propose la vocation. Et que ce jeune réponde, Ah Seigneur, est-ce que c'est dans les commandements? Non, dit le Seigneur, ce n'est pas dans les commandements. Alors je suis libre de répondre ou non. Notre Seigneur lui répond, Tu es libre, mais ça n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est d'entrer dans mon amour. Imaginez que le jeune dise, Bien, puisque ce n'est pas obligatoire, eh bien je ne me fais pas religieux. Le Seigneur va lui répondre, Alors qu'est-ce que tu fais avec moi? Est-ce que tu as compris vraiment ce qu'était mon amour? Eh bien, vous avez des moralistes qui disent qu'il n'y a pas de péché à refuser une vocation, sauf si on met son salut en danger. Imaginez que, refusant le stage de musique, je rentre à la maison et que mes parents me disent « Ah, mais tu fais comme tu veux, tu es libre et il n'y a aucune règle qui t'impose de faire la musique. » Ça aurait été bien le contraire, moi je les connais mes parents. Ils m'auraient dit « Ah non, si tu fais de la musique, tu la fais à fond. » Et tu profites justement de ce que ton professeur t'offre. Un autre exemple. Vous avez quelqu'un qui s'occupe d'un malade. Cela, c'est très exigeant. Imaginez qu'à un moment où le soin du malade devient plus exigeant, celui qui s'en occupe dise « Ah, ça, ce n'est pas dans les commandements de Dieu, je ne suis pas tenu. Je ne suis pas tenu de passer la nuit à côté de lui. » Alors le malade mourrait tout seul, que sais-je. Vous voyez, la règle ne suffit pas, le commandement ne suffit pas. Le commandement est un garde-fou, une bouée de sauvetage pour ceux qui n'ont pas compris. Imaginez une telle conception des choses dans le mariage, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne suis pas tenu de faire ce qui n'est pas dans la loi de Dieu, ce qui n'est pas obligatoire. Donc il n'y a plus d'enthousiasme. Et s'il n'y a plus d'enthousiasme, quand la sensibilité disparaît, quand le goût de la nouveauté disparaît, eh bien il ne reste plus rien. Et c'est le divorce. Lorsqu'on va encore un petit peu plus loin, tout ce discours de liberté qui ne se soumet qu'à la loi, trouve une caisse de résonance dans les passions des hommes, et puis on finit par dire, mais pourquoi la loi? Pourquoi ne pas vivre en totale liberté? Et ça, c'est Vatican II. Et la conséquence, l'ultime conséquence, c'est la haine de Dieu qui brime la liberté, parce qu'on croit qu'il la brime sans raison, et d'ailleurs, il ne brime pas la liberté. Il épanouit la liberté. Mais on n'y comprend plus rien. Je viens d'avoir une discussion là avec quelqu'un sur ce sujet, parce que justement je préparais mon sermon. Il va falloir que j'y revienne avec lui pour lui expliquer ce qu'est la liberté, la vraie liberté. Heureusement, c'est quelqu'un qui est pris par l'enthousiasme de Dieu et qui cherche à comprendre Dieu et à aimer Dieu. Donc il ne fera pas un mauvais usage de sa liberté. Il n'empêche que s'il n'a pas compris ce qu'est la liberté, Un jour ou l'autre, le démon lui glissera une peau de banane. Comment allons-nous remonter la pente ? Dieu a une sagesse qui n'est pas la sagesse du monde. C'est la sagesse de la croix. Il faut redécouvrir la joie de la croix à travers la joie de se consacrer à Dieu, à travers la valeur de l'amitié, de charité, l'amitié avec Dieu. Mais pour ça, il faut comprendre justement le mystère de Dieu. Saint Paul l'a dit, la croix est une folie aux yeux du monde et une sagesse aux yeux de Dieu. Et à l'inverse, ce qui est sagesse aux yeux du monde est folie aux yeux de Dieu. Si la croix est une folie et qu'on n'entre pas profondément dans la sagesse de Dieu pour comprendre qu'en réalité elle est une vraie sagesse, comment voulez-vous qu'on vive longtemps dans la folie ? On ne porte pas la croix si on la considère comme une folie. Par contre, si on la considère comme une sagesse, non seulement on la porte, mais on l'aime. Tous les chrétiens qui ont tenu et qui ont aimé Dieu, et il y en a eu beaucoup, bien entendu, il suffit de penser aux missionnaires qui sont allés au bout du monde pour transmettre l'amour de Jésus-Christ. Tous ces missionnaires, tous ces saints avaient été imperméables aux mauvais discours. Ils avaient contemplé le mystère de Dieu. Ils connaissaient le mystère de Dieu. Ils savaient que l'amour de Dieu dans la croix est une sagesse, et ils contemplaient cette sagesse. Mais tous ceux qui n'ont pas voulu contempler Dieu, qui se sont contentés de lui obéir, ont glissé petit à petit, et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir une nation bien chrétienne, comme la France, qui glisse dans la Révolution française, et qui au XIXe siècle patauge, et il n'y a pas d'autre terme, elle patauge. Et malgré Saint Pie X qui a quand même bien remonté la pente, cela ne tient pas et on arrive à Vatican II, qui est une vraie folie. J'ai entendu mon père, après le discours du pape à l'ONU, dire « Le pape vient de tenir un discours de franc-maçon. Comment se fait-il que des millions de catholiques aient suivi celui qui tenait un discours de franc-maçon ?» Je n'ai pas dit que Paul VI était franc-maçon, j'ai dit qu'il a tenu un discours de franc-maçon. Alors, mes bien chers frères, récitez le chapelet, récitez le rosaire. Pour nourrir votre chapelet et votre rosaire, lisez l'Évangile. Vous serez surpris de voir qu'il y a des richesses de l'Évangile que vous ignoriez, vous êtes passé à côté. Lisez la vie de Jésus-Christ, sa passion, son triomphe, par le Père Berthe, B-E-R-T-H-E. Là, vous redécouvrirez la sagesse de Dieu, et là, vous retrouverez un enthousiasme profond. Demandez-le à la Très Sainte Vierge, qui avait acquis au Temple le sens profond de l'Écriture, et qui ne fut pas surprise lorsque l'ange lui demanda d'être la mère de celui qui allait s'immoler sur la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.